Chapitre 12. Le plus vexé était certainement Besombe, qui ne s'attendait pas à semblable réception. Il croyait étonner ses amis et recevait un camouflet. Pouvait-il se douter aussi que cet animal de Grinchu, qui s'était la veille montré presque aimable, se comporterait le lendemain comme le goujat? Ils retournèrent au petit café de l'avenue du Maine et là tinrent conseil. Le gros Nestor et Bahouillet ne savaient toujours pas ce que Besombe avait découvert dans la cour de Procas, car l'agent d'affaires ne leur avait encore rien dit qui pût éclairer ce mystère. Besombe, comme tous les gens prétentieux et vides, ménageait ses effets avant de presser le ressort qui devait faire jaillir le diable de sa boîte. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda le gros Nestor. Besombe, les coudes sur la table, le sourcil froncé, semblait plongé dans une laborieuse méditation. Il ne sortit de sa rêverie que pour porter à ses lèvres le Raphaël Citron que Nescor avait commandé. Il but son verre d'un trait, s'essuya les lèvres d'un revers de main et consentit enfin à répondre. « Ce que nous allons faire, ce que nous allons faire !» Mais parbleu, nous allons demander au commissaire de nous accompagner chez Grinchu. Oh, le commissaire, dit Barbouillet, faut guère compter sur lui. Il nous racontera encore qu'il va faire une enquête et ce sera tout. Il laissera tomber l'affaire. Ce que nous pourrons lui apprendre ne le convaincra pas. Son siège est fait. Oh, j'ai vu cela quand je suis allé le trouver avec Nestor. Il nous a bien reçus, je reconnais, mais jamais il n'a pas eu l'air du tout de prendre au sérieux ce que nous lui disions. Ces gens-là n'aiment pas beaucoup que de simples particuliers se mêlent de police. Ils ont toujours une tendance à croire que les témoins mentent ou exagèrent. Cependant, dit Besombe, quand on leur apporte des preuves, « Ouais, je dis pas, mais en avez-vous vraiment ?» Besombe eut un imperceptible haussement d'épaules, prit un temps et répondit, « J'en ai. » Le gros Nestor et Barbouillet se regardèrent. Au fond, ils n'étaient pas très convaincus, bien qu'ils eussent confiance en leur ami. « J'en ai !» répéta Besombe en regardant d'un air étonné son verre vide. « Je voulais vous mettre à même de vous renseigner sur place, mais puisque ce butor de Grinchu n'a pas voulu nous laisser pénétrer dans sa cour, je vais tout vous dire. Écoutez-moi. » Et vous allez voir que je ne m'appuie pas sur des semblants de preuves. Je ne suis pas de ces détectives fantaisistes à la Sherlock Holmes qui échafaudent supposition sur supposition et émettent des hypothèses dont l'une doit fatalement conduire à la découverte de l'assassin. Moi, je suis un homme précis, méthodique. Je ne crois que ce que je vois. Or, j'ai vu. Ici, Besombe s'arrêta pour jouir de l'effet que produisait son affirmation. Ses deux auditeurs, conquis par son assurance, attendaient avec anxiété, penchés vers lui, guettant les mots qui allaient sortir de ses lèvres. « Oui, j'ai vu, ce qui s'appelle vu. Il faut d'abord que vous sachiez comment je m'y suis pris pour arriver à mes fins. L'affaire était délicate. » Un enfant avait disparu, les soupçons se portaient sur l'homme du passage Tenaille, mais c'était tout. Rien ne prouvait que le malheureux gosse eût été assassiné. Quelques vagabonds pouvaient très bien l'avoir emmené avec lui. Et d'après ce que j'ai appris, le petit n'était pas très intelligent. Au dire de sa mère elle-même, c'était un être naïf et confiant, très influençable. Et la dernière fois qu'on l'a aperçu, il jouait seul à l'orgue de l'avenue du Maine, presque en face de la maison de notre homme. Tout cela était bien vague et rien ne venait préciser mes soupçons. Quand Barouillet m'a rappelé l'assassinat de la petite Soubirou, assassinat qui a eu lieu peu de jours après l'installation du monstre dans le quartier. D'autre part, des renseignements que j'avais recueillis venaient bientôt étayer ma conviction. On avait vu à deux reprises l'ignoble individu du passage Tenaille suivre des enfants dans la rue Gassendi. « Oh, ça c'est vrai, dit le gros Nestor. Il y a 8 jours, le petit Cheret, le fils de la concierge du 44, est rentré chez lui tout effaré en disant qu'un homme l'avait pourchassé jusqu'au coin de la rue Liancourt. Vous voyez, dit Belzombe, mes renseignements sont donc exacts. Vous comprenez, avant d'accuser le solitaire du passage Tenaille, il fallait être documenté sur son compte. Et quand je le fus suffisamment, je me mis à le suivre et je remarquai qu'il regardait en effet les enfants avec un drôle d'air, surtout les petites filles qui sortaient de l'école à la nuit tombante. Il se tenait debout sous une porte dans une attitude bizarre. Bref, je passe sur certains détails. Notre individu devait être un satyre, et il cherchait sans doute quelques nouvelles victimes. Dès lors, je me suis tenu ce raisonnement. Puisque l'enfant de la mercière a disparu au moment où il se trouvait en face de la maison du passage Tenaille, il a dû être attiré dans cette maison. Et comme il n'y a pas reparu, on l'a certainement assassiné. Vous voyez que tout s'enchaîne à merveille. En effet, accorda Marouillet, mais vous verrez que notre imbécile de commissaire de police ne se laissera pas convaincre. Attendez, tout cela, c'est des hors-d'œuvre. J'arrive au plat de résistance. Puisque le petit Maurice était entré dans la maison du solitaire et qu'il n'en était pas ressorti, son corps devait se trouver quelque part. Or, des témoignages de gens sérieux m'avaient appris que le lendemain de la disparition de l'enfant, on avait eu de la fumée sortir de la cheminée de notre individu. Et pourquoi, par ce temps plus doux, avait-il allumé du feu, si ce n'est pour incinérer sa victime? Plusieurs passants ont d'ailleurs senti ce jour-là une odeur de caoutchouc brûlé, comme il s'en dégage des corps humains que l'on fait rôtir sur un brasier. Parfaitement, fit le gros Nestor, j'ai moi aussi senti cette odeur-là, même que j'ai dit à mon père, « Mais qu'est-ce qu'on brûle donc par ici? Ça fouette joliment !» C'était là, ce me semble, continua Besob en élevant la voix, car il s'était aperçu que les consommateurs l'écoutaient. C'était là un commencement de preuve. Un détective ordinaire s'en serait contenté, mais cela ne me suffisait pas. Il me fallait une preuve visible, quelque chose qui affermit ma conviction et me permit de dire à la justice, « Vous cherchiez le coupable, et bien moi, qui ne suis ni commissaire ni inspecteur de police, je l'ai trouvé. Or, j'ai poursuivi mes recherches. Un assassin, si habile qu'il soit, ne découpe pas un corps en morceaux sans que cette funèbre opération laisse des traces. Deux fois, en escaladant le mur, j'ai pénétré dans la petite cour que vous connaissez. Et là, muni d'une lampe sourde, j'ai soigneusement examiné la muraille, la porte et le dallage. Et c'est sur le dallage que j'ai trouvé ce que je puis appeler la pièce à conviction. » Tous les auditeurs étaient haletants et regardaient Besombe avec admiration. « C'est cette pièce à conviction que j'ai voulu vous montrer et que vous auriez pu voir comme moi dans la cour du satyre si cet idiot de Grinchu ne vous avait pas refusé l'entrée de sa maison. » « Mais, demanda timidement quelqu'un, cette pièce à conviction. »« Ces pièces, devrais-je dire, répondit Besombe, car il y en a plusieurs, oui, plusieurs. De grandes taches de sang encore très visibles, larges comme des pièces de 100 sous, plus larges même. Le doute n'est plus possible. C'est bien dans cette cour que le misérable a découpé sa victime. » Les consommateurs s'étaient peu à peu rapprochés pour écouter Besombe, qui élevait la voix au fur et à mesure qu'il voyait grossir son auditoire. Tous furent unanimes à reconnaître que l'agent d'affaires avait l'âme d'un grand policier. Besombe, tout en savourant ses éloges, répondait d'un petit air modeste à ceux qui le félicitaient. « Mais non, vous exagérez !» Il suffisait pour mener à bien cette enquête d'avoir un peu de jugement, le reste est affaire de métier. Avec les éléments que j'avais en main, je devais fatalement réussir. Le tout était de ne pas lâcher une seconde le fil que je tenais, et surtout de ne pas se laisser influencer par l'opinion de l'un ou de l'autre. Droit au but, telle est ma manière. J'hésite d'abord, je jette des coups de sonde de ci, de là, puis quand, une fois, je sens que le terrain est assez ferme sous mes pieds, je m'avance hardiment. Nestor ne cessait de répéter en écarquillant ses gros yeux de bovidé. « Oh, ça, par exemple, c'est épatant. Oh oui, épatant !» Barouillet, lui, un peu confus de n'avoir rien découvert, se montrait plus réservé, se contentant de hocher lentement la tête en signe d'approbation. Mais le plus enthousiaste de tous était un vieux rentier du quartier, le père Corbineau, un bonhomme au menton de galoche, avec des yeux de lapin blanc, qui hurlait d'une petite voix cassée « Un banc pour Belzombe ! Un banc pour Belzombe !» On eut toutes les peines du monde à lui faire comprendre qu'il ne s'agissait point d'une poule au gibier, mais d'une affaire qui, jusqu'à nouvel ordre, devait être absolument secrète. Chacun promit de ne rien dire, mais une heure après, depuis le Lion de Belfort jusqu'à la rue de la Gaîté, on ne s'abordait plus que par ces mots. « Eh ben, ça y est, hein ? Il paraît qu'il est passé !» Chapitre 13. Le lendemain, dans la matinée, le gros Nestor et Barouillet sonnaient à la porte de Besombe, qui habitait un modeste rez-de-chaussée rue Boulard, dans le fond d'une cour. Sur une porte vitrée, on voyait une pancarte avec ces mots tracés en belles rondes. Marius Besombe, avocat conseil, défense devant la justice de paix, enquête pour divorce, recherche dans l'intérêt des familles, etc. Besombe les attendait. Il était assis devant une petite table encombrée de dossiers poudreux. Sur la cheminée de marbre noir, entre un réveil et une carafe, trônait un buste en plâtre représentant la justice avec ses plateaux, dont l'un était cassé. Dans un angle était placée une commode en acajou qui avait été transformée en cartonnier. « Ah, vous voilà !» dit Besombe. « Une minute, asseyez-vous, le temps de signer quelques pièces et je suis à vous. » Barouillet se laissa tomber sur un vieux fauteuil de repos rouge, d'où s'éleva un nuage de poussière. Quant au gros Nestor, il avait pris une chaise, la seule qui se trouva dans la pièce, mais comprenant que s'il s'y asseyait, il l'écraserait sous son poids, il demeurait debout, adossé à la cloison, se mirant de loin dans la classe de la cheminée. « Ah !» fit enfin Besombe en ôtant ses grosses lunettes de celluloïde, « j'ai fini !» Parlons un peu de notre affaire. » Et pivotant sur son siège qui rendit un grincement sec, il se tourna vers les visiteurs. « Aujourd'hui, dit-il, nous entrons dans la période d'action, la période décisive. Il faut que ce soir, demain ou plus tard, notre individu soit sous les verrous. Dommage que nous ne puissions pas l'arrêter nous-mêmes, » grogna le gros Nestor. Ce que j'aurais eu de plaisir, oh, vous voyez, ce vilain coco-là. Ah, non, cela, c'est l'affaire de la police, dit Besombe. Notre rôle à nous autres se borne à livrer l'assassin. Est-ce que l'on saura au moins que c'est nous, pardon, c'est vous qui l'avez découvert? Oh, peut-être, mais il ne faut pas trop y compter, car les gens de police ont l'habitude de toujours tirer la couverture à eux. Du moment qu'on n'est pas de la boîte, on ne compte pas. Vous allez voir que le commissaire ne nous félicitera même pas. Le commissaire, dit Barouillet avec un haussement d'épaule, il est capable de ne pas prendre notre visite au sérieux. Quand Nestor et moi sommes allés le trouver, c'est à peine s'il nous a écoutés. Moi, à votre place, Besombe, c'est pas au commissaire que je m'adresserai. Au chef de la sûreté, alors ? Peut-être, mais il y a quelque chose qui voudrait encore mieux. Hein ? Et quoi donc? Ben, ce serait de s'adresser à un journal. Si la presse se mêle de l'affaire... Ah, ma foi, vous avez peut-être raison. Comme cela, les politiciens ne pourraient pas s'attribuer tout le mérite de l'enquête. Et on parlerait un peu de nous. C'est pas que je tienne à la réclame, non. Je suis un homme modeste. Et si j'avais voulu faire comme certains... Oh, enfin, votre idée n'est pas mauvaise. Vous connaissez quelqu'un dans un journal? Oui, un rédacteur de l'égalité, qui est venu plusieurs fois à nos réunions au moment de la campagne électorale. C'est aussi un ami de M. Jacques Asso, notre député. Eh bien, allons le voir. Nous lui exposons l'affaire, et si c'est un garçon intelligent, il pourra faire avec nos renseignements un article sensationnel. Oh, je vois déjà le titre, le satyre de Montrouge. Horrible détail. Oh, c'est le commissaire qui en fera une tête. Oh, comme vous y allez, mes ombres. Ne croyez pas que le journalisme marche si facilement que ça. Et les procès, vous n'y songez pas? Ben, c'est vrai, mais il n'y a pas matière à procès. N'avons-nous pas des preuves? Évidemment, toutefois, il vaut mieux agir avec prudence. Allons rendre visite à mon ami. Nous verrons bien ce qu'il dira. Les journalistes sont habiles et trouvent souvent le moyen de dire beaucoup de choses tout en ne disant rien. Et comme Besombe semblait ne pas comprendre. Mais oui, expliqua Barouillet, quand on ne veut pas évancer un fait de peur de se compromettre, on procède par insinuation, par sous-entendu. Vous verrez, Oscar Finot s'entend à ces sortes d'articles. C'est par des insinuations, des sous-entendus, qu'il a démoli Taupin, le concurrent de notre député. Ah, votre journaliste s'appelle Finot. Oui, j'ai déjà vu ce nom-là quelque part. Possible, oh, il écrit beaucoup et commence même à avoir une certaine réputation. Allons le trouver. Si l'affaire ne l'intéresse pas, nous nous rabattrons sur le chef de la sûreté. Et quand le trouve-t-on? Oh, l'après-midi, généralement. Vous pouvez d'ailleurs lui téléphoner pour annoncer notre visite. C'est cela, oui. Mais pour bien faire, il faudrait que l'article parût demain matin. Je vais d'ailleurs jeter sur le papier quelques notes qui pourront lui servir. Je vous attendrai ici. Passez me prendre... Dès que vous aurez obtenu un rendez-vous. Mais dites donc, je pense à une chose. Il faudrait pas laisser filer notre homme, hein. Voyez-vous qu'au moment de l'arrêter, on trouve la maison vide. Pas de danger, répondit le garçon boucher. Je l'ai à l'œil. Nestor et Barouillet serrèrent la main à Besombe et se retirèrent. Aux gens qu'ils rencontraient et qui les interrogeaient d'un petit signe de tête, ils répondaient avec un sourire énigmatique « Avant peu, il y aura du nouveau !» Comme des groupes commençaient déjà à se former devant la petite maison du passage Tenaille, Barouillet se fâcha. « Vous voulez donc nous faire tout manquer » dit-il. « Si vous demeurez plantés là comme des piquets, il va se douter de quelque chose et il va nous glisser entre les mains. Rentrez chez vous et attendez. Avant 24 heures, nous serons débarrassés de cet individu-là. » Oh, il y a longtemps qu'on dit ça, murmura un petit homme affligé d'une tache de vin sur la joue droite. Cependant, il est toujours là. À ce moment, Procas avait soulevé un rideau de sa fenêtre. « Tenez, vous voyez bien, il nous écoute, » dit Barouillet. « Oh, mais décidément, vous allez tout compromettre. C'est bien la peine de se donner tant de mal. » Les curieux se dispersèrent lentement, pendant que Procas se demandait anxieux. « Mais qu'est-ce qu'ils ont donc? Mais que me veulent-ils? Mais je ne comprends plus rien à ce qui se passe. » Chapitre 14. Quand la foule s'est liguée contre un homme, il faut que cet homme succombe à moins qu'il ne puisse s'imposer par l'audace et la violence. Or, le pauvre Procas n'avait rien de ce qu'il faut, lui, pour tenir tête à la meute déchaînée qui grossissait chaque jour. Pendant qu'il cherchait en vain les raisons de la guerre sourde qu'on lui avait déclarée, les meneurs recueillaient contre lui des preuves, ou des semblants de preuves, qui faisaient boule de neige et que l'imagination déformait à l'envi avec cette exagération dont le peuple est coutumier. Besaume continuait de dresser ce qu'il appelait son plan de campagne, et chacun, dans le quartier maintenant en révolution, s'attendait à un coup de théâtre. Accompagné du gros Nestor et du solennel Barbouillet, il s'était rendu au bureau de l'Égalité, boulevard Montmartre, et reçu par Finot, que Barbouillet avait prévenu par téléphone, il avait, avec sa verve de méridional, exposé au rédacteur les raisons sur lesquelles il s'appuyait pour accuser Procace. Ces raisons paraissaient plausibles, et Finot, qui cherchait justement un sujet d'article sensationnel pour entrer en grâce auprès de son directeur, lequel lui reprochait certains ratages, avait accueilli avec enthousiasme les révélations de Besombe. Toutefois, rendu prudent par une gaffe récente qui avait valu au gérant de l'Égalité une assez forte amende et 2 mois de prison, il ne s'engagea pas à fond dans cette affaire. Il se contenta de lancer un ballon d'essai. Dans un filet de première page transparent pour les seuls initiés, il avait assez habilement amorcé le scandale. Le lendemain, dans tout Montrouge, on s'arrachait l'Égalité. Le brûlot avait porté. Ceux qui doutaient encore de la culpabilité de l'homme du passage de Tenaille le considérèrent dès lors comme un affreux criminel et s'étonnèrent que la police ne l'eût pas encore arrêté. Besombe, flanqué du gros Nestor et de Barouillet, faisait de fréquentes stations dans les cafés où il pérorait intéressablement, expliquant pour la 100e fois comment il s'y était pris pour découvrir le coupable. Ce soir-là, lorsque Procace sortit à la brume pour aller chercher son dîner, il se vit suivi par une 10aine d'individus dont le nombre grossit peu à peu, et quand il rentra chez lui, une clameur s'éleva, sinistre, menaçante, « À mort ! À mort !» Effrayé, il s'engouffra avec son chien dans le vestibule, referma vivement la porte et se mit à écouter derrière un volet, se demandant si ses forcenés n'allaient pas pénétrer chez lui. Il ne comprenait toujours pas ce qui avait pu déchaîner leur colère, mais il se rendait compte maintenant que la vie n'était plus tenable et qu'il serait obligé peut-être de fuir ce quartier où son apparition soulevait une telle haine. Il perçut quelques brimes de phrases qui ne firent qu'augmenter son trouble, sans l'éclairer toutefois sur le motif de ce brusque revirement. Il se rendait compte enfin que sa laideur n'était point seule en cause, qu'il devait y avoir autre chose, mais il était loin de se douter, le malheureux, de la terrible accusation qui pesait sur lui. Un moment, il eut l'idée d'écrire au commissaire, de lui demander de le protéger, mais il y renonça, espérant que la fureur de ces gens finirait par s'apaiser, comme elle s'était déjà apaisée quelques mois auparavant. La foule haranguée par Besombe, qui était devenu l'homme du jour, s'abstint pendant une semaine de toute manifestation. « C'est de la justice d'agir, » ne cessait de répéter Besombe. « Attendons. Il est impossible que ce misérable jouisse longtemps encore de l'impunité. Une enquête est ouverte, je le sais. Nous allons bientôt assister à l'arrestation de l'assassin. » Besombe se trompait. Une enquête avait été ouverte, en effet, mais avait eu pour résultat de le faire convoquer chez le commissaire, qui lui avait demandé en termes plutôt vifs de quoi il se mêlait. Besombe voulut le prendre de haut, mais on lui rappela certaines affaires de presse sur titre qui n'avaient jamais été bien éclaircies et dans laquelle il avait joué un rôle plus que louche. On l'engagea même dans son intérêt à se tenir tranquille à l'avenir et à ne pas empiéter sur les attributions de la police. Meusôme sortit tout penaud. Le soir, il retrouvait au café le gros Nestor et Barouillet, mais se gardait bien de leur apprendre comment il avait été reçu par le commissaire. « Voyez-vous, leur dit-il, il est toujours dangereux de s'occuper de ces sortes d'affaires. La police ne veut pas qu'il soit dit qu'elle est d'une maladresse insigne. Elle aime mieux laisser échapper un coupable que d'avouer franchement son incapacité. Moi, vous l'avez vu, j'ai fait tout ce que j'ai pu dans l'intérêt de notre quartier. Je me suis efforcé de démasquer un malfaiteur et me semble que j'y ai réussi, mais la police voit tout cela d'un mauvais œil. Bientôt, si ça continue, ce sont les accusateurs qui seront les coupables. Voilà, je renonce à m'occuper de l'affaire. Que d'autres me remplacent, mais moi je suis écœuré. » Le gros Nestor protesta. « Et quoi, monsieur Besorme, vous parlez de tout lâcher ? Oh non, vous ne ferez pas ça. » « J'ai dit, » dit Besorme d'un ton péremptoire. Barbouillet intervient. « Voyons, voyons, vous n'allez pas jeter ainsi le manche après la cognée. La police, devons-nous nous en préoccuper ? Le devoir nous commande de demeurer sur la brèche. » Est-ce au moment où l'on a tous les atouts en main que l'on abandonne la partie ? Que va-t-on penser de nous ? Puisque notre commissaire est un incapable, c'est à nous d'agir. Je vais aller trouver Finot, et il va lui servir quelque chose au commissaire. Non, 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 protesta Besombe, n'entrons pas en lutte avec le commissaire. Nous n'aurions pas gain de cause. Ce serait la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Ces gens de police sont vindicatifs en diable et capables de toutes les canailleries. Et qu'avons-nous à craindre, repartit Barouillet. Notre conscience ne nous reproche rien, n'est-ce pas? On peut fouiller dans notre vie. Moi, je m'en fous du commissaire. Et s'il persiste à faire la sourde oreille et à protéger l'assassin, eh bien, je le ferai révoquer, oui. Révoquer, vous entendez? Je m'adresserai pas plus tard que demain à M. Jacques Assot, notre député. Il ira trouver, s'il faut, le préfet de police. Et vous verrez comme il l'annoncera, votre commissaire. Faudra qu'il s'exécute ou qu'il dise pourquoi. Besorme ne se sentait point tranquille à cause de cette vieille affaire de prêt sur titre qui menaçait de revenir sur l'eau. Aussi se montrait-il opposé à ce qu'il appelait une action directe. Il ne pouvait cependant point, sous peine de passer pour un lâcheur, renoncer brusquement à tout. Il s'en tira de façon assez habile. Je n'ai malheureusement pas assez de relations, dit-il, pour soutenir une lutte contre des gens qui disposent d'influences secrètes et appartiennent à cette franc-maçonnerie policière aussi puissante que l'ordre des jésuites. Mais vous, Barouillet, qui êtes au mieux avec notre député, M. Jacques Assot, et qui avez vos entrées à l'égalité, vous pouvez arriver à un résultat. Moi, j'ai fait une enquête, elle a abouti à la découverte d'un assassin, mais la police refuse de marcher. Il faut l'y forcer, et vous seul pouvez le faire. » Barouillet était piqué au vif. Il se rengorgea, fronça le sourcil, eut l'air de se faire prier, puis, très grave, laissa tomber ses mots. « Puisqu'il le faut, j'agirai, bien qu'il m'en coûte de me mettre en avant. Mais songez que vous travaillez dans l'intérêt de tous, et les mères de famille vous seront reconnaissantes de les avoir débarrassé d'un individu qui pourrait être l'objet d'horreur et de crainte, qui est devenu un danger public. Mais vous continuerez, mon cher Besorme, à m'aider de vos conseils, je suppose. Oh, pouvez-vous en douter ? » Barouillet offrit une tournée, le gros Nestor une autre, et on se séparera en se donnant rendez-vous pour le lendemain. Maintenant, Besombe était à peu près tranquille. L'affaire suivrait son cours, mais lui n'y serait pour rien. Ce serait cet outrecuidant Barouillet qui endosserait toutes les responsabilités en compagnie du gros Nestor. Cependant, si Besombe demeurait dans l'ombre, il n'en continuait pas moins à mener une sourde campagne. Barouillet, lui, heureux de ne plus être sous la tutelle de l'homme d'affaires, parlait haut et disait à qui voulait l'entendre que bientôt il forcerait la main à la police. Quand il passait, les boutiquiers l'appelaient, l'accablaient de questions, et sa réponse était invariablement la même. Bon, j'ai fait une tournée dans les journaux. Vous allez voir le joli scandale qui va éclater. On l'écoutait avec ravissement, on buvait ses paroles, on le félicitait. Cependant, l'homme du passage Tenaille, le satyre, comme on l'appelait maintenant, continuait d'aller et venir à la tombée de la nuit, suivi par une bande de gens qui l'injuriaient lâchement et l'accompagnaient jusqu'à sa porte. Le gros Nestor faisait toujours partie de cette meute, car, d'accord avec Barouillet, il s'était institué le surveillant de Procas, dont on redoutait la brusque disparition. Des gamins se joignaient au cortège, et l'un d'eux, ayant voulu un soir s'approcher du satyre, avait dû battre l'ombre promptement en retraite devant les crocs menaçants de mamie que les cris des enfants rendaient furieux. « Ce sale cabot !» dit le gros Nestor. « Oh, je le saignerai avant peu, vous verrez ça. En attendant qu'on nous débarrasse de l'homme, je ferai toujours passer au kleps le goût du pain. » Chapitre 15. Dans tout Montrouge, on attendait chaque jour le fameux coup de théâtre, mais il tardait à se produire. 15 jours s'étaient écoulés depuis que Besombe avait passé la main à Verrouillet, 15 jours pendant lesquels les esprits de plus en plus surexcités étaient graduellement arrivés à un état d'exaspération tel que tout était à craindre. Prudemment, Rabouillet, qui n'avait point réussi dans ses démarches, demeurait calfeutré chez lui, en proie à une maladie probablement simulée. Quant à Besombe, il ne se montrait plus au petit café de la rue Liancourt. Seul le gros Nestor, avec sa ténacité de brute, continuait d'épier Procas, et quand le malheureux sortait, il abandonnait son étal et se mettait à filer le satyre. Des vauriens et des désœuvrés, ainsi que quelques mégères, se joignaient à lui et emboîtaient le pas au pauvre homme. Pour échapper à ses ennemis qui grondaient derrière lui, Procas tournait vivement le coin d'une rue et se blottissait sous quelques porches, mais il était toujours dénoncé par les grognements de Miami. Alors la foule l'entourait, menaçante, et il s'enfuyait en rasant les murailles. Dès qu'il pénétrait dans quelque boutique pour y acheter du pain ou un peu de viande, un attroupement se formait devant la porte, et des voix irritées grenaient tout un chapelet d'injures. Certains commerçants refusèrent de le servir, et il fut bientôt obligé d'aller jusqu'à la rue de la Tombissoire pour se procurer quelques maigres provisions. Un soir, près du réservoir de Montsouris, juste à l'angle de l'avenue Reille, il fut pris à partie par un groupe dans lequel se trouvait le gros Nestor. On l'empoigna brutalement, on lui déchira ses habits, et on l'eût probablement écharpé si des agents n'étaient accourus. Procas, à demi-fou, rentra chez lui, en courant, mais arrivé devant sa porte, il n'aperçut point Miamami. Il le siffla, l'appela. Le chien ne répondit pas. Procas l'appela encore et, pris d'un sinistre pressentiment, se mit à sa recherche. Il refit le chemin qu'il avait déjà parcouru, sifflant toujours, redoutant un malheur. Le chien demeurait introuvable. Procas crut que l'animal, affolé par la scène qui s'était passée, ou poursuivi à coups de pierre par les gamins, avait fui du côté du parc Montsouris. Durant toute la nuit, il battit le quartier et retourna plus de 10 fois devant sa porte, espérant que mamie serait peut-être revenue. Au lendemain, dès le petit jour, il regagnait tristement sa demeure, conservant peu d'espoir de retrouver son cher compagnon, quand au coin de la rue Saint-Yves, il aperçut dans le ruisseau une grosse boule grise. Il s'approcha, se pencha et reconnut son chien, son pauvre mamie, qui gisait la tête écrasée dans une mare de sang. Procas poussa un cri déchirant. Son poing se tendit dans le vide en un geste de menace, puis il ramassa la bête et la prit dans ses bras. Ceux qui virent passer cet homme horrible avec ce cadavre de chien qu'il portait comme un enfant demeurèrent étonnés, et quelques-uns s'étant permis de rire, Procas les regarda d'un air si terrible qu'ils reculèrent médusés par ses yeux jaunes qui semblaient ceux d'un démon. Rentré chez lui, Procas déposa le cadavre de mamie sur la table de son laboratoire et se mit à fondre en larmes. Ainsi, maintenant, il était seul, bien seul. Il n'avait plus qu'un ami, ce chien, et on l'avait tué. Pourquoi ? Était-il responsable, pauvre animal ? Était-il aussi l'ennemi de ces brutes ? Il ne gênait personne, cependant. C'était un pauvre chien très doux, très craintif. Et si parfois il avait montré les dents, c'était plutôt pour se défendre que pour attaquer. Bien souvent, les gamins l'avaient taquiné, harcelé, et jamais il n'en avait mordu aucun. Il semblait, comme son maître, résigné à souffrir. Il ne demandait qu'un peu de pitié, voilà tout. Et il l'avait tué, sans motif, ou plutôt si, parce qu'il était son chien à lui. Procas, le chien du maudit. Mais pourquoi ne s'était-il pas attaqué à l'homme au lieu d'assommer une bête inoffensive ? Et Procas sanglotait, tenant dans une de ses mains la patte froide du pauvre mamie. Longtemps, il demeura devant ce cadavre éclaboussé de sang, dont l'œil triste, voilé par la mort, conservait encore une infinie tendresse et où il y avait comme une expression humaine. Tout à coup, il eut au dehors un bruit de voix qui le fit tressaillir. Rendu au sentiment de la réalité, il leva la tête, regarda vers la fenêtre et distingua entre les rideaux mal joints des ombres mouvantes que grossissait démesurément la lueur d'un réverbère. À l'inertie, à la torpeur, succéda brusquement chez Procas une colère sourde. Il s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit et s'écria d'une voix terrible « Allez-vous-en ! Allez-vous-en, misérable !» Une bordée d'injures l'accueillit, mais il fit face à l'orage. Oh, ce n'était plus le pauvre être effacé, craintif, qui cherchait dans la rue à passer inaperçu. C'était maintenant un homme résolu, prêt à l'attaque, un homme affolé que le désespoir et la colère rendaient capable de tout. Sous la lumière crue du bec de gaz qui le frappait en plein visage, il avait quelque chose de si terrifiant que les voix qui l'injuriaient se turent. « Misérable, misérable !» hurlait-il en tendant le poing. Mais une oppression le saisit et le sang lui monta à la gorge. C'est à peine s'il eut la force de refermer la fenêtre, et il s'abattit, haletant, suffoquant, terrassé par une syncope. Quand il revint à lui, le soleil éclairait en plein sa chambre, où dansait dans un rayon conique une fine poussière d'or, pareille à un essaim d'insectes minuscules. Toujours étendu sur le parquet, il éprouvait une vive sensation de froid. Il grelottait, ses dents claquaient. Il promena autour de lui un regard étonné, mais l'idée de se lever ne lui venait pas à l'esprit. Il demeurait étendu, toujours frissonnant, la gorge sèche, et les membres si las qu'ils ne se sentaient pas le courage de faire un mouvement. Le bruit de la rue lui arrivait atténué, à peine perceptible, tant ses oreilles bourdonnaient. Tout était vague dans son esprit. Il crut un moment qu'il avait eu, durant sa crise, un affreux cauchemar, comme cela lui arrivait souvent, mais un doute affreux le saisit. Il se leva péniblement en s'arc-boutant sur les coudes et sur les genoux. Le premier objet qu'il vit sur la table sur laquelle reposait son chien, et alors il se rappela tout. Il s'approcha, titubant comme un homme ivre, passa sa main sur le pelage terne de l'animal et demeura immobile, le front plissé, l'œil fixe. Il paraissait très calme. On devinait qu'il poursuivait une idée qui, peu à peu, prenait corps dans son esprit. Soudain, sa figure s'illumina. Il se tourna vers la fenêtre d'un air de défi, comme pour menacer des êtres invisibles, puis laissa tomber ces mots. « Pauvre mamie, ils t'ont tué. Mais avant peu, tu seras vengée, et c'est toi qui serviras à ma vengeance. » Chapitre 16. Le lendemain, dans le petit café de la rue Liancourt, le gros Nestor et Barouillet causaient à voix basse. Un événement s'était produit qui ne laissait pas de les troubler un peu. Besaume avait disparu sans prévenir personne. « Décidément, dit Barouillet, c'est-à-dire rien comprendre. Besaume nous aurait avertis s'il avait dû s'absenter. J'avais bien remarqué qu'il semblait préoccupé, mais j'étais loin de prévoir qu'il filerait ainsi à l'anglaise. Il est peut-être parti en province pour une affaire, émit le gros Nestor. Non, non, il doit y avoir autre chose. Mais quoi? Ah, voilà. Si on l'avait assassiné, oh, l'homme du passage Tenaille a peut-être appris que Besombe l'avait démasqué. Peut-on savoir? Cet horrible individu est capable de tout. Lui qui ne se montrait jamais, maintenant il ouvre sa fenêtre, il regarde les gens, faut voir. Il a continuellement l'injure à la bouche. L'autre soir, il nous a traités de misérables et nous a montré le poing. Ah, je vous garantis que s'il avait pu employer l'un de nous, il aurait fait passer un mauvais quart d'heure. Il est comme un fou furieux. Mais c'est la mort de son chien qui le met dans cet état. Alors il en verra bien d'autres. Tant qu'on ne décidera pas à l'arrêter, nous lui ferons la conduite chaque fois qu'il sortira. Enfin, voyons, monsieur Barouillet, pourquoi qu'on ne scoffe pas cet individu-là? Ben, je n'y comprends rien. Vous avez pourtant saisi de l'affaire des personnages affluents. Oui, notre député a vu le commissaire, mais il lui a fait la même réponse qu'à nous. Selon lui, l'homme du passage Tenaille n'est pas dangereux. Mais les preuves recueillies par monsieur Besombe... Le commissaire dit que c'est de l'enfantillage. Oh, par exemple, alors, qu'est-ce qu'il lui faut? Moi, je renonce à m'occuper de cette affaire. Alors, j'y perds mon temps et j'aboutis à rien. Et les journaux? Ben, le rédacteur de l'égalité dit maintenant comme le commissaire. Ça, c'est trop fort. Eh bien, moi, j'abandonne pas la partie. Et nous verrons si on ne décide pas bientôt à arrêter le satire. C'est très joli de dire qu'il n'est pas dangereux, mais en attendant le gosse de la Mercière, il n'a pas reparu, et on n'a pas retrouvé non plus l'assassin de la petite du cinéma. Alors maintenant, voilà que ça se complique. Monsieur Beson a disparu, lui aussi. Vous direz ce que vous voudrez, mais tout ça n'est pas naturel. Ah, si je pouvais seulement pénétrer pendant 5 minutes dans la maison du passage Tenaille, je vous garantis bien... Et le gros Nestor hocha la tête d'un air entendu. Barouillet, pensif, sirotait lentement son vermouth cassis. Lui non plus ne comprenait rien à tout cela. Il s'était à corps perdu, lancé dans cette malheureuse affaire, mais il se rendait compte maintenant que l'affluence dont il jouissait dans le quartier, en qualité d'agent électoral, n'arriverait point à contrebalancer celle du commissaire. Où Jacques Assaut avait échoué, il ne pouvait qu'échouer lui aussi. Il valait mieux abandonner la partie, mais discrètement, habilement, car il craignait de devenir suspect à ceux qu'il avait entraînés à sa suite. Nestor, plus combatif, était, comme il se plaisait à le répéter, décidé à foncer dans le tas. Sa conviction était faite, la police protégeait un assassin, mais lui, il saurait bien démêler la vérité. Une tournée, monsieur Rouillet? Non, merci, ce sera pour une autre fois. Ah, oh, vous savez, c'est de bon cœur. Alors, encore un petit apéro, ça n'a jamais fait de mal. Marouillet se laissa fléchir. Père Chevassu, remettez-nous ça, commanda le gros Nestor en montant les verres vides. Le patron, un gros homme chauve et pâle, aux moustaches d'un noir d'ébène, arriva aussitôt avec deux bouteilles. Tout en versant, il souriait. Bon, on voyait qu'une question lui brûlait les lèvres. Enfin, il demanda. « Eh, monsieur Besor, on ne le voit plus. »« Il a disparu, » répondit le gros Nestor. « Ah, vous voulez sans doute dire qu'il est en voyage ?»« Non, disparu, que je vous dis. Personne ne sait ce qu'il est devenu. » Il n'y a que du mystère dans le quartier depuis quelque temps. Le père Chevassu devint soucieux. Vraiment, fit-il, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ben, combien qu'il faut vous le répéter de fois? Diable, diable. C'est ennuyeux, c'est ennuyeux, oui, très ennuyeux. C'est que ça ne fait pas mon affaire, mais pas du tout. J'ai eu confiance en lui, vous comprenez. Il vous doit quelque chose? Demanda Marouillet. Ben justement. Beaucoup? Ben je vous crois. 1500 balles. Pas possible. C'est la vérité. Et il vous a prêté ça d'un coup? Non, en 3 fois. Vous comprenez, c'était pour l'affaire et j'ai pas cru pouvoir lui refuser, d'autant plus qui se recommandait de vous. « Oh, c'est trop fort !» s'exclama Barouillet. « Mais il nous a jamais parlé de ça. Il est venu me trouver plusieurs fois, il avait l'air très agité. L'affaire le préoccupait beaucoup, et il était, paraît-il, obligé de faire certaines dépenses pour obtenir des renseignements. Bref, je me suis laissé tomber de 1500 francs. S'il revient proche, je suis vert. » « Bon, il reviendra. Bonjour, mais je crois un honnête homme. »« Mais s'il était un honnête homme, il ne serait pas recommandé de vous. »« Ça, c'est une leçon. Ah, on ne lui reprendra plus. » Et le père Chevassu, que sa femme venait d'appeler, se dirigea vers son comptoir. « C'est louche, cette histoire-là, » fit le gros Nestor. « Oui, plutôt, » murmura Barouillet. Il eut un silence. « Moi, » reprit le garçon boucher, « voulez-vous que je vous dise? Eh bien, je m'étais toujours méfié de Besombe. D'ailleurs, de quoi vivait-il? Il venait jamais personne à son cabinet. Et puis quand donc il serait occupé de ses affaires? Il était toujours au café et il bavardait, c'est tout. Enfin, qu'il revienne ou non, ça ne nous empêchera pas de continuer ce que nous avons commencé, n'est-ce pas ?» Non, non, moi je vous l'ai déjà dit, je renonce à tout. Sérieusement? Sérieusement. Bon, c'est pas chouette ce que vous faites là, monsieur Barouillet. Lâcher ainsi les habits, non, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on va penser dans le quartier? Nous aurons l'air de farceurs. Mais mon ami, que voulez-vous que je fasse? Vous voyez bien que nous nous heurtons à des difficultés insurmontables. Nous avons contre nous la police, elle ne veut pas qu'il soit dit que nous avons été plus malins qu'elle. Et vous savez, quand on s'attaque à la police, on ne récolte rien de bon. Bon, vous et moi n'avons rien à craindre, n'est-ce pas? On ne nous coffrera tout de même pas parce que nous voulons qu'on nous débarrasse de l'individu dangereux. Je voudrais bien voir que le commissaire me dise quelque chose. Je le recevrai de la belle façon. Je suis un honnête homme, moi, j'ai rien à me reprocher, par conséquent, je suis tranquille. Puisque tout le monde me plaque, je travaillerai seul. et je donne ma tête à couper si avant 15 jours j'ai pas réussi à faire empoigner l'individu du passage tenaille. D'ailleurs, il y a une chose bien simple. Si on l'arrête pas, les gens du quartier l'estourbiront un beau soir, comme on a estourbi son chien. On est trop monté contre lui. Et je connais des gars qui hésiteront pas à le buter. Ah, pas de ça, hein, dit Barbouillet, ça serait grave et pourrait nous coûter cher. Le gros Nestor eut un haussement d'épaule. C'est des choses qui se raisonnent pas. Tout le monde lui en veut, cet homme-là. Et tôt ou tard, il finira bien par attraper un mauvais coup.